carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Les 1er, 2 et 3 avril 2011 se déroulent les journées des métiers d'art. Partout en France, des artisans d'art ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir leur métier, un métier qui est en général une passion. Mais qu'appelle-t-on métier d'art aujourd'hui ? Qui sont ces hommes et ces femmes dont les gestes d'excellence ont pour mission de servir les artistes ? Où se situent-ils par rapport aux artistes entre tradition, restauration et création ? Sont-ils suffisamment reconnus ? Les métiers d'art aujourd'hui en 2011 ont-ils besoin d'être défendus ? Avec nous en studio pour faire le point sur l'originalité de ces métiers, expression d'un savoir-faire multiséculaire pour certains d'entre eux, j'accueille Jean-Michel Delisle, président de l'Institut National des Métiers d'Art, l'IMNA.
Bonjour.
Vous êtes donc chargé de l'organisation de ces journées des métiers d'art qui ne connaissent pas encore le succès des Journées européennes du patrimoine qui, comme chacun sait, se déroule chaque année en septembre. Mais pour profiter de cette fenêtre ouverte en avril sur ces métiers d'art, sur ces métiers rares que sont les métiers d'art, j'accueille aussi Mona Layo, éditrice d'art et membre du Conseil des métiers d'art jusqu'en 2009, qui sera pour l'occasion complice de cette interview en duo.
Bonjour Marianne.
Bonjour Manel. Alors peut-être comme première question pour nos auditeurs, qu'appelle-t-on Jean-Michel Delisle un métier d'art ? Qu'est-ce qu'un métier d'art ?
Vous savez qu'on a la chance d'être dans un pays extrêmement organisé. Depuis Colbert, l'administration française règne sur tout ce qui existe en France. Et donc, les métiers d'art en France font l'objet d'une liste officielle de 217 métiers qui sont ainsi répertoriés et je ne peux pas en dévier. Je m'occupe de 217 métiers.
Il y en a qui sont exclus, qu'on pourrait attendre dans ces métiers ?
Alors, oui, et c'est une grande problématique aujourd'hui, à l'heure où la gastronomie française est fêtée, où le repas à la française est patrimoine immatériel de l'UNESCO, il y a un appel du pied, en particulier de Catherine Dumas, sénatrice de Paris, qui a remis son rapport sur l'avenir des métiers d'art en France, grâce à laquelle M. Fillon nous a demandé d'annualiser ces journées des métiers d'art pour en faire le contrepoint des journées du patrimoine. Il y aurait une tentation que la gastronomie devienne métier d'art. Mais on s'arrête où ? Où commence la gastronomie ?
Surtout que là, dans la nomenclature, sont surtout les métiers qui ne sont pas les métiers éphémères qui ont été choisis.
Alors, la tradition de l'administration française et de la France, c'est qu'un métier d'art se décrit par un geste qui aboutit à un objet d'art.
Ça, c'est la définition.
Un objet pérenne. Hein ? Donc, le métier est souvent à la base d'un geste. Je vous dis ça parce que certains métiers, aujourd'hui, me demandent d'allonger la nomenclature officielle comme métier d'art. Je vais vous citer un exemple qui est le mien, fabricant de luminaires. Depuis des années, nous faisons des luminaires superbes, aimés dans le monde entier. Fabricant de luminaires n'est pas un métier d'art. En revanche, j'utilise des tourneurs, des monteurs, des ciseleurs, des décorateurs sur métaux, des fondeurs d'art. Tout cela, ce sont des métiers d'art. Le métier est donc lié à un geste de base, je dirais. Et il ne faut pas confondre des assembleurs et le métier de base. Ça n'est pas parce que fabriquer des sacs en croco, ça n'est pas un métier d'art. En revanche, un bourrelier, un sellier, ce sont des métiers d'art.
Dans le métier d'art, il y a art. On dit souvent que c'est le beau dans l'utile.
Voilà. Alors donc, ces 217 métiers, c'est une liste officielle qui comporte des noms absolument extraordinaires. J'aurais envie, alors Monel, c'est une idée que tu pourrais avoir, de faire un dictionnaire des mots des métiers d'art. Qui sait ce qu'est un plumassier ? Il y a des termes absolument d'une beauté incroyable. Il faudrait faire travailler un homme comme Alain Rey. Je l'ai fait moi-même travailler au comité Colbert, donc je le connais bien. On pourrait travailler sur les mots, non pas du luxe, mais les mots des métiers d'art.
On a fait ça. On faisait des classes métiers d'art avec les enfants et ils repartaient avec un sac au trésor. C'était un sac de jute et dans le sac, il devait y avoir 5 mots qui devaient compléter. Et les 5 mots étaient toujours des mots assortis à un métier.
Voilà.
Quels sont pour vous les mots qui définiraient le mieux un métier d'art ?
Je veux commencer par quelques mots, pardon de l'expression, mais un peu bateau. Je pense qu'au départ, il y a la passion et il y a l'intelligence de la main. Il ne faut jamais oublier que le beau geste, l'influx vient toujours du cerveau. C'est-à-dire que nos métiers d'art, ce sont des métiers de l'intelligence et de la main. Ce sont des mots qui, moi, me vont droit au cœur lorsque je rencontre des jeunes et surtout lorsque je rencontre leurs parents. Jusqu'à ces dernières années, un jeune qui rentrait dans nos métiers était souvent un jeune dit en échec scolaire. c'est-à-dire qu'il n'était pas capable de suivre le cursus dit normal de l'administration française de l'éducation nationale, et donc on considérait qu'il ne pouvait pas suivre des études normales. Et donc, on l'envoyait dans un lycée professionnel faire une formation qu'il subissait. D'où des CAP en 2 ou 3 ans, et on disait « il faut au moins 2 ou 3 ans pour apprendre à un jeune un métier ». C'était l'époque où des artisans disaient « oui, envoyez-nous des jeunes à 14 ans parce qu'on va pouvoir les dresser, les former », comme si c'était une matière molle. Aujourd'hui, j'observe que dans nos prix de métiers d'art ouverts à la jeunesse, le prix Avenir de l'INMA, la plupart des primés aujourd'hui sont des jeunes à Bac plus X qui ont par passion embrasser un métier d'art. J'aime bien ce terme d'embrasser parce qu'en général, c'est un coup de cœur sur une matière. J'ai observé que c'était un coup de cœur sur une matière.
Ce sont des parcours professionnels qui se déterminent très tôt quand même sur le plan scolaire.
Alors, l'administration fait qu'en fin de troisième, si vous n'êtes pas capable de faire une seconde classique, vous êtes envoyé dans l'enseignement professionnel.
Mais un métier d'art passe forcément par cette filière ?
Pas du tout. Et je suis en train de vous expliquer que la majorité maintenant des jeunes qui viennent à l'INMA dans notre centre de ressources s'informer sur les métiers d'art sont des jeunes étudiants qui ont envie de rediriger leur vie vers un métier d'art parce qu'ils ont découvert un métier, ils ont découvert par la télévision, par la radio, par une visite, d'où l'importance d'ouvrir nos ateliers aux jeunes et à leurs parents. Alors quand il s'agit d'étudiants, c'est déjà plus facile parce qu'ils sont maîtres de leur destin et on observe des jeunes qui viennent par passion, qui en un an sont capables d'avoir leur CAP très facilement, de gagner des prix et d'être probablement les vrais entrepreneurs de demain. Car il ne faut pas oublier que la finalité, même si l'art est gratuit et même si le beau va vers le bien, il y a quand même aussi de faire vivre des jeunes, d'avoir des emplois, d'avoir de l'exportation et d'avoir un marché que l'on peut fournir. Il y a quand même de l'économique.
Manalayo.
D'ailleurs, il est dommage que l'apprentissage soit si tardif, parce que si on avait dit à Mozart qu'il fallait qu'il attende 13 ans pour jouer du violon, ça aurait été un petit peu dommage. Mais en fait, si on pouvait avoir ces classes très très jeunes et l'enseignement de l'art dans les classes dès le primaire, ce serait beaucoup plus formateur et les gens se dirigeraient beaucoup plus vite vers ces métiers d'art.
C'est évident que l'éducation à l'art, l'éducation au trait, au dessin, c'était, tu l'as tellement bien connu, Étienne Vatelot, l'ancien président de la CEMA, ce célèbre luthier, qui disait toujours « un métier d'art commence toujours par le trait ». Et je crois que l'enseignement du dessin et de l'histoire de l'art est fondamental. On parle de l'enseignement de l'histoire, mais l'histoire de l'art est une éducation au beau.
D'ailleurs, Bachelier l'avait compris au XVIIIe siècle, puisqu'il avait convaincu la marquise de Pompadour de donner des fondations et ensuite Louis XVI de lui donner la rue d'Ulm pour faire des écoles de dessin, parce qu'il voulait transformer les formes dans les manufactures. Lui-même était peintre de porcelaine dans la manufacture de Sèvres.
Vous avez parlé tout à l'heure d'une légère dévalorisation tout de même de ce travail.
Oui, c'est en train d'évoluer.
Hein. Alors, ça, c'est ancien. Alors, qu'est-ce qui change justement dans la perception du public ? Qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, je crois, mais je crois que c'est la crise économique qui fait qu'aujourd'hui, les gens constatent que des métiers dits à réussite ne sont pas forcément un épanouissement pour l'homme. Les métiers d'art sont des métiers qui font appel au cœur, qui font appel à la main, qui font appel au beau, et qui ensuite sont des métiers qui peuvent s'exercer de manière locale, en région. On n'est pas forcé d'aller à la Défense pour travailler. On peut rester dans sa région, surtout si la région est riche en métiers d'art de tradition. On peut y vivre bien, y vivre avec passion. Et je crois que les gens, c'est quelque chose qui est en train de... C'est une deuxième... Je pense que l'ère post-industrielle pousse à cela, à une réflexion sur ce que nous avons à faire de notre vie. Et je crois que les gens, dans les métiers d'art, sont heureux. Moi, je vois quand des jeunes viennent parler avec mes compagnons. Je vous donne un exemple. La CGPME organise chaque année à Paris, au Palais des Congrès, une journée d'information sur les métiers. Et donc, nous faisons rencontrer les jeunes, viennent rencontrer des compagnons de nos sociétés qui parlent avec eux. Les jeunes voient des personnes de 30 ans, 28 ans, 35 ans, parce que les gens qui travaillent chez nous sont encore jeunes, qui ont déjà 15 ans de maison. Et qui voient des gens qui leur disent le bonheur qu'ils ont d'aller le matin travailler, vous savez, ça compte.
Et puis c'est une chaîne d'excellence, on ne travaille jamais seul dans ces métiers, parce que sur un objet, plusieurs métiers interviennent. Il y a une solidarité qui se fait à qualité égale. C'est aussi une grande discipline, parce qu'il faut 10 ans pour faire un artisan d'art.
Ça, c'est assez nouveau. Ce que dit Monel est très juste, c'est qu'on s'aperçoit que aussi dans les métiers d'art, les gens ont envie de travailler en groupe, ensemble. Vous savez qu'on l'observe par exemple en médecine. tous les jeunes qui veulent s'installer en médecine veulent s'installer dans des cabinets groupés. Ce n'est pas pour le plaisir de partager une secrétaire qu'ils paieront moins cher parce qu'ils seront 8 à en profiter. C'est parce qu'on travaille en réseau aujourd'hui. On a besoin de partager des compétences. Et les villes qui ont compris cela, qui ont développé des pôles métiers d'art, dans lesquels les jeunes, ou des pépinières dans lesquelles les jeunes peuvent travailler ensemble, sont une réussite mais remarquable. Je citerai par exemple près de Paris, Pantin, la ville de Pantin, dont la tradition métier d'art n'est pas vraiment connue de tout le monde.
Oui.
Bon, ben voilà une ville qui a décidé de bâtir une partie de son rayonnement et de son développement sur les métiers d'art. Conclusion, BNP vient de passer 3500 cadres de faire un grand centre à Pantin, Hermès a son usine, Chanel est en train de construire des ateliers. Enfin,
les arts du théâtre aussi, oui.
Donc, voilà l'exemple d'une ville qui a réussi un développement qui n'était pas évident de soi, par une volonté politique.
Est-ce qu'il y a des exemples où, par exemple, la tradition de certains métiers d'art s'était quasiment perdue et qu'on aurait sauvé ou pas ?
Est-ce que c'est une idée fausse ? On cite facilement l'Aïeul.
Oui, hein,
on cite l'Aïeul, qui est une vraie réussite, alors que le l'Aïeul disparaissait, les ateliers disparaissaient, et on a aujourd'hui vraiment l'Aïeul à retrouver avec peu de choses, avec un entrepreneur un peu plus dynamique que les autres, qui se sont aperçus qu'on pouvait associer le design avec la tradition.
Mais alors un vrai l'Aïeul, ça existe encore, parce que je croyais comprendre que que tout le monde pouvait faire des l'Aïeul, que c'était...
Si vous me lancez sur la copie, oui, mais oui. Ça, la copie, malheureusement, vous en aurez toujours, dans un monde qui est de plus en plus ouvert.
Elles feront de moins en moins rêver. Il leur manque la touche de vérité.
Donc là, sur l'exemple que vous venez d'évoquer, c'est un exemple qui est particulièrement copié.
Oui.
Quand même. C'est la rançon du succès.
Mais oui. Mais oui. Vous savez, il y avait un très grand verrier dans les années 50 qui s'appelait Max Ingrand. Max Ingrand était un sculpteur verrier qui a fait, par exemple, la grande fontaine de la place Victor Hugo à Paris. Max Ingrand disait « Quel honneur d'être copié. Cela nous donne une exigence, c'est de créer plus vite que les copieurs. » C'est d'être toujours en avance d'un cran. Mais c'est ce qui fait la richesse de la haute couture française, par exemple, qui est copiée, qui est toujours en avance d'une marche. Ben oui, c'est ça, la marche du podium. Et je crois que l'Aïeul, par exemple, alors c'est un bon exemple, je crois que c'est Stark qui a collaboré pour refaire renaître le l'Aïeul. Ben, il était en avance. Ben oui. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas rester figé dans ces vieux canons, ça c'est sûr. Mais les métiers d'art ne sont pas des métiers figés. C'est ça qui est extraordinaire que les jeunes découvrent.
Est-ce qu'il existe des métiers d'art d'aujourd'hui complètement nouveaux ?
Des matières et des objets, mais pas les métiers.
Alors, et justement, est-ce qu'on peut discerner
Non, alors ce qu'on peut discerner, à mon avis, mais ça c'est l'ingénieur de formation que je suis qui vous parle, c'est l'introduction à la fois de nouvelles matières. Manel a raison, il y a des matières extraordinaires, même dans des métiers tout à fait traditionnels, comme des abat-jour. Vous avez aujourd'hui des espèces de mailles très fines de métal qui n'étaient pas du tout faites pour ça.
Dans le textile, il y a des matières nouvelles.
Provoque des irisations de lumière. On peut jouer avec la lumière, avec des matières qui n'étaient pas faites du tout pour être un abat-jour, mais que les gens détournent. Vous avez également, je vous donnerai un exemple que je viens d'expérimenter pour mon compte récemment, c'est toute cette technologie du scanner en 3D et de l'impression numérique en volume qui était utilisée en joaillerie, en bijouterie pour des toutes petites pièces et qui maintenant peuvent être faites sur des très grandes pièces. La seule chose, c'est que ça supprime le métier du sculpteur de bas de gamme qui n'était bon qu'à vous faire la reproduction d'un modèle en sculpture sur bois. Cet homme-là n'a plus d'avenir. Parce que maintenant, vous prenez un ordinateur, vous le scannez en 3D, vous le modifiez comme vous voulez en taille, en dimension, etc. Vous mettez print et un quart d'heure après, vous avez votre objet en cire qui est entièrement fabriqué. Donc voilà des technologies qui vont être une assistance, mais en même temps qui vont supprimer certains métiers lorsqu'ils étaient exercés sans talent. Parce que c'était un métier de reproduction. En revanche, les grands sculpteurs, oui, on en a besoin. Donc, si vous voulez, je crois que les métiers d'art sont tirés vers le haut par des nouvelles matières, par les nouvelles technologies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour exercer un métier d'art ou demain, il faudrait être encore meilleur qu'aujourd'hui. Je vois ces jeunes qui... Je vous parlais tout à l'heure de jeunes. Je vous donne un exemple. Nous avons eu une jeune femme... 26 ans, elle avait fait de la communication dans le tourisme. Elle travaillait à Marrakech, dans un très grand hôtel. Un soir, elle regarde la télévision et elle voit un reportage sur l'art du vitrail. Probablement, comme Paul Claudel, derrière sa colonne, une révélation. Le lendemain, elle démissionne, elle prend un billet d'avion, elle retourne en France, elle passe un CAP de vitrailliste et la première année, elle est premier grand prix de l'INMA, premier prix national. voilà une jeune femme, mais voilà une jeune femme qui parlait trois langues. Voilà une jeune femme qui pouvait être capable de présenter avec un PowerPoint l'objet qu'elle avait dessiné, qui nous a montré l'évolution de la pensée, pourquoi elle avait créé ça. C'est une future grande de demain. C'est une femme qui pourra aller aux États-Unis vendre ses vitraux ou aller au Moyen-Orient où le vitrail français est apprécié. Ça n'est pas en restant dans son atelier. Alors c'est aussi pour ça que je me bats. Je crois que nos artisans d'art ont besoin d'une formation continue, formation permanente. Ils ont besoin d'évoluer.
Comment les métiers d'art évoluent aujourd'hui en France par rapport au cadre de la mondialisation ?
Les métiers d'art d'abord en France sont organisés. Vous parliez de voyage.
La deuxième partie de la question, c'est est-ce que quand on sous-traite dans des ateliers à l'étranger, on ne retransmet pas des savoir-faire qui créent votre propre concurrence ?
Moi, ce n'est pas mon cas, donc je ne peux pas tellement vous en parler. Ceci dit, lorsque un grand maroquinier fait un sac en croco, il est évident que le crocodile, il ne l'a pas trouvé en Camargue. Peut-être que dans quelques années, avec le réchauffement de la planète, on peut espérer qu'il y ait des crocodiles en Camargue, mais ça vient de Thaïlande. Donc, il y a un savoir-faire de tannage de cette peau-là qui vient de pays dans lesquels le crocodile existe. Lorsque je fais, moi, des lustres à cristaux qui sont des reproductions de l'époque Régence, le cristal de Bohême, eh bien, il vient de Bohême. Mais en revanche, lorsque je reçois un client chinois, comme ça m'est arrivé il y a 15 jours, ce monsieur m'a dit, « Monsieur, avant même que vous me fassiez un devis, je veux que vous me fassiez un certificat. » Me certifiant que tous les objets que vous fabriquerez pour moi seront faits dans vos ateliers en France. Je vais vous citer un deuxième exemple. Un ébéniste français, il y a quelques années, sur un palais à Moscou, qui avait fait ses boiseries en France et qui les a fait poser par des Russes. Le client l'a viré. Il lui a dit « Je ne vais pas à Paris faire des boiseries par des sculpteurs français pour qu'ils soient posés par des Russes qui ne sauront pas vous les poser. »
Vous êtes en train de nous dire que le savoir-faire français est très reconnu à l'étranger.
Bien sûr, mais il faut savoir ne pas rester enfermé. S'il y a un vrai savoir-faire, j'étais hier au cabinet de Frédéric Lefebvre, qui voulait savoir quels étaient les partenariats, quels étaient les pays sur lesquels nous souhaitions travailler. Et nous lui avons cité quelques pays sur lesquels nous savons qu'il y a un appétit formidable pour les métiers d'art français. Je prends l'exemple de la Corée, comme il y a eu, il y a très longtemps, le Japon. Et nous lui parlions de l'Inde. Voilà un pays qui a une tradition de métiers d'art extraordinaire. Pourquoi ne pas essayer d'avoir une convention bilatérale dans laquelle nous pourrions avoir des apprentis que nous pourrions échanger pour apprendre les uns des autres ? La mondialisation, c'est aussi partager des savoirs.
Mais il y a déjà beaucoup d'ateliers en Inde.
Non, ce que je dis, ce n'est pas délocaliser, c'est faire des échanges d'apprentis pour que des artisans français se forment à des techniques. Vous avez par exemple des techniques de tissage en Inde qui sont extraordinaires et que des tisseurs en France pourraient apprendre. Et vice-versa.
Mais est-ce qu'ils pourraient vendre leur travail ? La main-d'œuvre étant tellement chère, ils ne pourraient pas vendre leur travail.
Moi, je ne suis pas d'accord du tout. J'ai une entreprise à caractère artisanal. Je fais 80% à l'exportation. Et on vend très bien. J'ai aucun problème pour vendre. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit des objets de qualité. Il faut que ce soit des objets qui soient bien vendus, qui soient vendus dans la langue du pays. C'est-à-dire que nos artisans qui ne parlent pas anglais, pour moi, c'est un drame. Je considère que l'anglais devrait être appris avec le crayon. Avec
et le chinois
le... Bien sûr, pourquoi pas.
Alors que faites-vous du latin et du grec ?
Quelle est l'antinomie ?
Non, j'en vois pas.
Hein. Moi non plus.
Oui, voilà, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas
hein. Oui, il paraît que c'était un grand académicien, puisqu'on est à l'académie ici, M. Duménil, qui disait toujours, je crois qu'il parlait à peu près 65 langues ou quelque chose comme ça, il disait, vous savez, à partir de la 12e, ça devient très facile.
Oui, c'est ce que disent les polyglottes.
Voilà.
Vous êtes donc à la tête de cet Institut national des métiers d'art, qui est une création récente, mais qui n'est pas sortie ex nihilo.
Non, qui n'est pas sortie ex nihilo. C'est une forme d'intuition un peu que j'ai eue, je vais tout vous avouer, j'ai eu ma nuit du 4 août. Lorsque j'ai été élu président de la Société d'encouragement des métiers d'art.
La SEMA.
La SEMA, qui était bien connue dans le milieu des métiers d'art.
Oui.
J'ai rencontré mon ministre de tutelle, qui était Hervé Novelli, et qui m'a dit, cher président, écoutez, tout le monde me dit qu'il faut fermer la SEMA. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, telle qu'est la SEMA, vous avez raison. Et si vous me dites de la fermer, je fermerai la SEMA. Je crois qu'il y a plus intelligent à faire pour nos métiers, et nos métiers ont besoin de quelque chose qui n'existe pas. Petit rappel, la SEMA avait été une association réanimée par Valéry Giscard d'Estaing en 1975, homme qui aimait vraiment les métiers d'art et qui a fait beaucoup pour eux. Il avait réanimé cette association à une époque où personne ne parlait des métiers d'art. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y a un engouement récent pour les métiers d'art. Oui, c'est vrai. Et en 1975, personne ne parlait des métiers d'art. Donc la création de cette société d'encouragement des métiers d'art était le constat qu'avait fait le président Giscard d'Estaing, que nos métiers étaient faibles, dispersés et avaient besoin d'un pilotage national. Ceci dit, c'est toujours vrai. La seule chose, c'est qu'au cours des années, la SEMA était devenue une association qui défendait des artisans. C'est-à-dire qu'elle se mettait en porte-à-faux ou en opposition avec des syndicats professionnels dont c'est le métier. Et donc, ces syndicats professionnels, la SEMA était un peu en compétition avec eux. En revanche, l'intuition initiale, il faut toujours, vous savez, revenir aux intuitions initiales. L'intuition initiale du président Giscard d'Estaing était, à mon avis, très juste. C'est-à-dire qu'il fallait un outil pour l'État.
Qui couvrait
surtout,
tout le territoire.
Et surtout avec la décentralisation, et ça on va en parler, parce que pour nos métiers qui sont des métiers dispersés et fragiles, la régionalisation n'est pas un vrai plus. Et donc, il faut un outil au niveau national qui soit un outil, un, d'observation, deux, de promotion et trois, de pilotage.
Alors, expliquez-nous justement ce paradoxe. Vous dites que ça ne serait pas un atout, la régionalisation.
Je vais y revenir. Oui. Donc, si vous voulez, je termine sur l'INMA. J'ai convaincu Frédéric Mitterrand et Hervé Novelli d'en faire un outil interministériel au niveau de l'État. C'est-à-dire que je suis passé d'un conseil d'administration, alors Monel le sait bien, d'un conseil d'administration représentant des adhérents, des artisans, à un conseil d'administration très institutionnel, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'Assemblée permanente des chambres de métiers, qui représente toutes les chambres de métiers au niveau régional, les trois ministères artisanat, culture, éducation nationale, puisque les trois composantes font partie des métiers d'art, et autour de la table, de nombreuses associations professionnelles. Les meilleurs ouvriers de France, les fabricants d'ameublement, les maîtres d'art, qui représentent plutôt le côté culturel. Nous avons les bijoutiers, bon, etc., etc. Donc, nous avons un conseil d'administration maintenant très institutionnel et je souhaite faire rentrer prochainement l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, qui sont des très grands enseignants, puisque les chambres de commerce ont de très nombreuses écoles d'enseignement d'art aussi et d'art appliqué.
Alors, quelles sont les missions de l'IMNA ?
Alors, les missions sont très simples. C'est un, la promotion publique, la jeunesse. Et donc, nous avons un projet de réouvrir notre voûte de l'avenue de Ménil exclusivement à la jeunesse. Cette voûte sera un centre de ressources qui aujourd'hui est un petit peu inaccessible ou mal accessible. Je veux que cette voûte soit la voûte des jeunes où ils puissent se renseigner sur les métiers d'art.
Donc aujourd'hui, moi, quand je passe sur ce trottoir, je vois de magnifiques boutiques.
Oui. Et là, vous le viaduc des arts, déjà le nom.
Le viaduc des arts,
voilà.
Nous,
vous nous expliquez qu'elles vont rester, ces boutiques, j'imagine.
Complètement, mais il y a l'une des voûtes.
Mais
une
des
voûtes de l'Institut national des métiers d'art.
D'accord.
Et les jeunes pourront rentrer dans la voûte, s'installer un peu comme dans un cybercafé, devant un écran, et se renseigner sur les métiers.
Le pôle ressources métiers d'art, il sera viaduc des arts.
Alors, il est déjà au viaduc des arts, mais il est au deuxième étage et un peu difficile d'accès, confidentiel.
On le voit.
Je veux que ça soit
de la rue.
Il sort de chez Surcouf, et puis il rentre chez nous et il se renseigne. Enfin, je veux dire, il faut aussi que l'accueil que nous faisions aux jeunes soit un accueil qui soit de leur temps et qui ne les rebute pas. Vous savez, un jeune sous ses airs un petit peu dur, c'est un peu difficile d'aller au fond d'une salle, demander bonjour madame, où est-ce qu'on va leur sort. C'est intimidant. Il faut pouvoir s'asseoir à un écran. Vous savez, aujourd'hui, finalement, les jeunes ont perdu le sens du dialogue. Ils dialoguent avec leur souris et avec leur clavier, mais ils ont du mal, finalement, à dialoguer. Alors, ceux qui voudront aller plus loin, il y aura sur la mezzanine un accueil plus personnalisé sur lequel ils pourront travailler, ils pourront imprimer des fiches métiers, ils pourront...
Un pôle ressources.
Un peu plus, absolument.
Je suppose doublé d'un site internet.
En ce moment, nous avons un énorme portail qui, pour les journées des métiers d'art, va ouvrir une partie, mais une partie seulement et progressivement, bien sûr, un énorme portail sur lequel nous travaillons. Ben oui, il faut rester dématérialisé.
Et un portail qui a aussi un annuaire d'artisans qui sont choisis, enfin pas cooptés, mais pas loin.
Alors, nous avons comme mission...
Alors, sur le portail, il peut y avoir...
La promotion, donc j'ai dit la promotion à la jeunesse,
ouais.
Promotion et information à la jeunesse. Car promouvoir les métiers d'art, c'est bien, mais il faut aussi leur dire comment on y va dans ces métiers d'art. Donc, leur donner toutes les grilles de lecture des diverses formations à partir du niveau à partir duquel ils sont. Un enfant qui est en troisième, ça n'est pas la même chose qu'un jeune qui a un DEUG et qui veut... Voilà, donc tous les types de formations seront répertoriés. Il y aura des liens évidemment avec le monde de la culture, le monde du design, avec les grandes organisations professionnelles, avec l'ONICEP, car l'ONICEP nous demande des contenus, car l'ONICEP, les métiers d'art, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas très bien, parce que c'est en dehors du circuit classique. Et donc, nous avons un rôle à leur apporter.
On voit que la formation, ça compte énormément dans ce métier.
Énormément.
C'est peut-être ce qui fait aussi cette excellence dont vous parliez probablement. Il n'y a pas que le talent, la formation, c'est essentiel. Peut-être revenons là, dans les dernières minutes qui nous restent, sur les fameuses JMA du mois d'avril, puisque c'est aussi l'autre mission que vous a confiée
Le ministre. En dehors de l'Institut, en dehors de son rôle de promotion, d'information à la jeunesse et de pilotage, je reviens deux secondes sur la décentralisation. La décentralisation me paraît, autant sur le plan politique, c'est très bien, tout le monde est content, parfait. Sur le plan des métiers d'art, nous avons des métiers qui sont très dispersés, très faibles. Or, vous savez que la formation professionnelle, ce sont les régions qui la gèrent maintenant. Ça veut dire que si une région fait une formation, je vous donne un exemple, en ferronnerie, elle va avoir une dizaine d'élèves, une quinzaine d'élèves. La région d'à côté, bien entendu, va vouloir sa propre formation en ferronnerie. Elle va avoir 8, 9 élèves. Une seule suffirait. Il serait 22 élèves et ça se passerait très bien. Alors la seule chose, c'est que les régions financent leurs étudiants, leurs ressortissants, mais la région d'à côté. Et donc, il y a besoin de trouver...
D'harmonisation.
Je suis en train de travailler avec le président de l'APCM, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, pour trouver un fonds dédié qui pourrait servir aux régions, tout simplement pour qu'elles aient l'humilité de dire « on va payer le séjour de nos étudiants qui vont être dans la région d'à côté pour apprendre ». Ce n'est pas la peine. Nos métiers n'ont pas besoin d'avoir une formation dans chaque région. Du moment qu'il y en a, faisons vivre celles qui sont bonnes et qui sont dans des régions, vous comprenez. Et ça, il peut y avoir qu'un observatoire au niveau national qui
peut... Et donc, comme ce ne sont pas des formations de masse et que ce ne sont pas des métiers de masse, évidemment, c'est moins attractif pour un président.
Oui, puis alors on ferme les classes après, parce qu'on vous dit, ben, il n'y a pas assez d'élèves. Donc, on ferme la classe. Et deux régions peuvent avoir le même constat, on va fermer nos classes parce qu'on n'a pas assez d'élèves, alors que si l'une avait pris le leadership et elle pourrait faire vivre son enseignement. Donc ça, c'est très important
Qui va être en charge de cette mission diplomatique pour...
Ça, je pense que j'aurai un petit rôle dedans.
C'est l'Institut
C'est l'Institut, c'est son président ou sa directrice générale qui devront y aller. Alors nous avons bien entendu des gens ou des... Nous avons des correspondants régionaux maintenant. Dans chaque région, nous avons un correspondant qui est en général un institutionnel, quelqu'un qui travaille pour la région.
Il y a combien de personnes qui travaillent pour l'Institut?
À l'Institut, nous sommes 18.
Oui.
Nous sommes entièrement ou presque entièrement financés par l'État. Et donc, j'ai le sens du service public, bien pour un chef d'entreprise privé. Mais je crois qu'il faut dépenser le moins d'argent possible pour avoir le plus grande efficacité.
Et alors, vous dépendez de plusieurs ministères ?
Alors, notre ministère principal en termes de ressources, c'est le ministère de l'Artisanat, du Commerce, des Services et autres. C'est un secrétariat d'État, mais qui doit avoir le titre le plus long de la République.
Et il y a d'autres ministères ?
Le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale de manière quasi symbolique. Mais quasi symbolique, mais qui souhaite être présent, et nous le souhaitons parce qu'ils ont une importance considérable. Alors, il y a aussi la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Madame Morano, qui est très intéressée par ce que nous faisons. Je l'ai rencontrée récemment, elle est tout à fait passionnée.
Pour les fameuses JMA.
Alors, les JMA.
Tout prochainement, là.
Le Premier ministre nous a demandé d'organiser de manière annuelle ces journées des métiers-là qui avaient existé, mais qui étaient biennales. Or, biennale, on ne peut pas créer un effet de mémoire, un effet d'habitude sur une opération qui a lieu tous les deux ans.
Donc, la nouveauté, là,
cette année,
nouveauté,
c'est l'annualisation à partir de 2011 de ces journées, un changement de date pour qu'elle soit...
Qui est essentiel.
Qui nous est apparu important. D'abord parce qu'en avril, les jeunes se posent souvent la question de leur devenir. Alors, on m'a dit, oui, ça aurait pu être un peu plus tôt. Vous savez, en France, entre les vacances scolaires, les semaines de l'artisanat, il y a trois zones de vacances. Quand vous regardez le temps, il y a les journées nationales du patrimoine en début d'automne. Donc, nous avons pensé qu'en printemps, il y avait une espèce de contrepoint dans l'année qui me paraissait intelligent.
Et au printemps, on a envie de sortir, on a envie d'aller dans ces ateliers, de rencontrer ces artisans.
Et d'ailleurs, nous suscitons auprès des régions qu'elles aient des parcours de découverte métier. Enfin,
alors, quel est le
programme ? Car nous le lions au tourisme.
D'accord. Alors, ces trois journées se déroulent dans toute la France.
Absolument. Alors, si vous voulez, l'idée quand même générale, c'est de faire ouvrir le maximum d'ateliers à la visite. Ce qui est quand même finalement quelque chose, et j'espère qu'il y aura un retour sur l'investissement que font les artisans de rester ouvert le samedi, le dimanche.
Mais évidemment, ce qui est difficile, c'est qu'il y a tellement d'artisans et il y a tellement de richesses que certains ateliers vont voir peu de monde. C'est pour ça que certains ateliers se regroupent dans des lieux où ils sont plusieurs et où c'est plus facile de communiquer.
Vous avez des régions plus dynamiques que d'autres. Vous avez des régions qui ont tout à fait compris que ces parcours qu'ils vont pouvoir faire, nous allons leur donner, nous donnons aux régions l'annuaire national des métiers d'art, car ça aussi c'était dans nos missions, cet annuaire national des métiers d'art,
dont parlait tout à l'heure Monel,
qui était avant un document papier, maintenant ce sera entièrement dématérialisé, mais nous donnerons à chaque région la liste des artisans qui sont dans l'annuaire, de manière à ce qu'ils puissent organiser eux-mêmes des documents sur des parcours. Vous avez des régions qui sont des parcours du verre, par exemple en Lorraine, etc., ou du cristal. Je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être en Auvergne, les parcours du métal. Vous aurez donc des parcours qui seront initiés par les régions et qui liront tourisme, tourisme artisanal et en même temps tourisme...
Et découverte d'ateliers et de métiers. À la rencontre. Donc, c'est une rencontre avec le public qui est
c'est
quand
un
même
dialogue
visé,
avec
là, hein.
Le public, entre les artisans et le public et les jeunes.
D'accord.
Les et les lieux d'enseignement aussi. Les lieux d'enseignement seront ouverts.
Les écoles
ouverts,
sont ouvertes.
Hein.
Alors, où se renseigne-t-on pour connaître ces parcours?
Vous pouvez aller sur notre site, le site de l'INMA, et vous verrez absolument tous ces parcours. Et puis, vous avez les sites des chambres des métiers. Chaque région a une chambre régionale des métiers qui a un site internet sur lequel vous pouvez vous renseigner. Alors, vous avez aussi le site, par exemple, des Ateliers d'Art de France, qui est une organisation professionnelle au niveau national, qui est un de nos partenaires privilégiés dans cette opération, puisqu'ils ont, eux, un réseau national aussi d'artisans. Vous avez également les artisans du patrimoine. Donc, vous avez les fédérations professionnelles également. En région, les chambres de métiers ou notre site, c'est la chose la plus facile.
La plus facile à trouver, disons, oui, comme information. Est-ce que vous envisageriez, puisqu'on ne peut souhaiter qu'un grand succès à ces journées, est-ce qu'il est possible d'envisager pour la journée des métiers d'art, pour ces journées du 1er, 2, 3 avril, que vous souhaitez annuelles, une dimension européenne comme on a pour le patrimoine?
Alors c'est déjà en route.
Oui.
C'est déjà en route. Alors ce qu'il faut quand même que je vous dise, c'est assez intéressant. Nous avons un partenaire, je vous ai parlé du partenariat avec les Ateliers d'Art de France au niveau national pour ces 3 journées d'animation. Nous avons une grande soirée de lancement avec nos ministres qui va avoir lieu à la Cité de l'Architecture. Et cette soirée va être sponsorisée. Sponsorisée par un groupe, quel groupe Richemont? La Fondation Vacheron-Constantin. C'est surprenant pour un groupe de luxe, Helvéto sud-africain, et qui vient en France être un partenaire de long terme avec nous sur ces soirées de lancement. Et ils nous ont dit, c'est très simple, vous êtes le seul pays en Europe où les métiers d'art sont organisés. Alors on leur a dit, ça c'est quand même un peu l'héritage de Colbert et de l'administration française, elle a aussi des bons côtés. Vous êtes le seul pays dans lequel, lorsqu'on dit métiers d'art, il y a une tête. Et on peut parler avec quelqu'un qui va nous parler au nom des métiers d'art. En Allemagne, ce sont les Länder. En Italie, ce sont les régions.
Qui sont très très fortes.
Mais au niveau régional, il n'y a rien au niveau national en Italie. En Espagne, non plus. Il y a le problème entre la Catalogne et Madrid, et Valence, en métier d'art. Il y a des pôles métiers d'art. Et donc, vous, non. On sait qu'on va pouvoir avoir une dimension nationale tout de suite avec un institut qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, malheureusement, dans le cadre de l'Euroméditerranée, j'avais rencontré le ministre tunisien de l'artisanat et le ministre égyptien, et les deux voulaient créer un INMA. Il faudra que j'attende un tout petit peu avant de pouvoir donner à leur successeur quelques idées. Mais nous avons déjà des demandes de la part de la Toscane. Barcelone, nous avons un lien très privilégié avec Barcelone, qui est très très attentif à ce que nous faisons. Et nous avons déjà des demandes et nous souhaitons annoncer dès le 1er avril d'annoncer cette ouverture à l'Europe, bien sûr, qui est très demandée.
Et l'Europe du Nord et les pays de l'Est?
Il faut savoir que, et je pense que c'était une intuition du président Sarkozy, qui était une intuition assez juste, qui était de dire dans l'Euroméditerranée, quand on dit Euro-Méditerranée, c'est quand même très Euro du Sud-Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'il y a des structures d'entreprises comparables. L'artisanat d'art autour de la Méditerranée, y compris France, Italie, Espagne, Portugal, il y a une structure. C'est des toutes petites entreprises personnelles qui existent beaucoup moins dans les pays du Nord et dans les pays scandinaves. Ce sont des entreprises. Il y a cette notion entrepreneuriale dans les pays scandinaves, anglo-saxons ou l'Allemagne qui n'existe pas chez nous. Chez nous, il n'y a pas de grandes entreprises, ou bien après ce sont des géants, ou sinon ce sont nous, 95% des métiers d'art en France, c'est moins de 5 personnes. Ce sont des entreprises monopersonnelles ou presque. Et c'est pour ça que nous parlons de l'Europe du Sud, parce que l'Europe du Sud est très attentive à ça. Alors peut-être la Bavière, on va voir, mais pour le moment nous sommes très tournés vers les pays du Sud, ce qui n'est pas si mal.
Jean-Michel Delisle, pour conclure, vous êtes là aux commandes d'un outil, l'Institut, là, un institut national des métiers d'art. Ça ne vous manque pas, le geste habituel ou votre métier, votre formation ?
J'y suis tous les jours.
Ouais, racontez-nous un peu. Poussons la porte de votre atelier
Moi, mon entreprise a été créée par mon arrière-grand-père en 1890 à peu près. Il était dessinateur. Il avait d'ailleurs eu un prix à une exposition universelle, prix de dessin d'art. Et quand on sait la qualité du dessin à la fin du 19e siècle, et j'ai encore des milliers d'aquarelles. Et donc, à cette époque, il avait une passion qui était la passion du 17e et du 18e siècle français, à une date où nous étions, 1890, en plein art nouveau. Donc, toutes ces périodes classiques du style français étaient boudées. Et donc, il a pu amasser une collection absolument considérable de bronzes anciens du 17e et du 18e. Et puis, il s'est pris d'amitié avec le grand-duc Paul de Russie. Le grand-duc Paul, qui était l'oncle de Nicolas II, était à Paris, en exil, parce qu'il avait épousé une roturière. Et il a fait construire à Boulogne-Billancourt un hôtel particulier que mon arrière-grand-père avait entièrement décoré. Et quand il est rentré à la cour en 1905, parce que sa femme avait entre autres été anoblie en 1904, il a emmené mon grand-père avec lui, qui a fourni toute la cour à Tsarskoïe-Selo et à Saint-Pétersbourg, ce qui fait que ça a lancé la maison. Donc moi, je suis la quatrième génération et j'ai un fils qui travaille avec moi, qui a travaillé chez Lalic pendant plusieurs années à New York et qui a fait Subdeco. Donc vous voyez, moi je suis ingénieur de formation, lui a fait Subdeco. Nous ne sommes pas des
manuels, on va dire.
Mais ça ne nous empêche pas de savoir faire travailler nos talents, nos vrais métiers d'art que
donc,
sont nos compagnons.
Vous diriez que vous avez un métier d'art ?
Je fabrique des objets d'art sans être un métier d'art, puisque finalement, je suis tous les gens qui travaillent chez moi, eux exercent un métier d'art.
C'est une maison, ça.
C'est un assembleur, un coordinateur. Mais finalement, faire un sac chez Hermès, ça utilise des métiers d'art, mais fabrique de sacs n'est pas répertorié comme métier d'art. J'en discutais l'autre jour, j'ai un problème, c'est que je suis...
Vous-même, vous dessinez ?
Ah oui, j'ai toujours dessiné et peint. Et alors c'est drôle parce que mon fils aîné, quand il préparait ses concours de grandes écoles, aussi dessinait et peignait. Oui, il faut quand même qu'il y ait un petit atavisme,
quelque chose.
Ah oui, oui, oui. Alors je vais vous raconter une anecdote et puis ce sera peut-être la fin de notre entretien. Il y a quelques années, j'avais rencontré Nan Leget qui dirigeait Céline. C'est la femme qui a, dans le groupe LVMH, redressé complètement Céline après la mort de Madame Céline. Et je lui avais dit, mais Nan, comment pouvez-vous avoir un bureau de design, des créateurs extérieurs et faire que tout ça soit Céline? Elle m'avait dit, c'est très simple. Céline, c'est moi. Tous les dessins qui ne me paraissent pas Céline ne passent pas le bureau de dessin. Ils ne vont pas plus loin. Et j'en ai retiré quelque chose. C'est que la Maison de Lille, pour le moment, en matière de style, de création, c'est moi, c'est mon fils, mais c'est personne d'autre. Et puis, si des gens trouvent que ce n'est pas bien ce que nous faisons, ben, ils ne nous achèteront pas. Puis, s'il y a des gens qui trouvent que c'est bien, ils nous achèteront. Vous savez, c'est comme la foi, ça vous porte. Et puis, ben, tant que vous l'avez, ben, ça vous porte, et ben, c'est très bien.
Bon, les métiers d'art se portent bien en France, alors ?
Non, mais je pense qu'on va travailler à ce qui se porte mieux.
Bon, merci. Merci Jean-Michel Delisle. Merci Manel.
Merci Marianne.
Bon, les métiers d'art français pourraient se porter mieux si nos artisans d'art prenaient un tout petit peu de temps pour lever la tête du guidon. Mais ça, je pense que c'est un syndrome de tous les artisans, pas seulement les artisans d'art. C'est qu'un artisan devrait prendre un peu de temps pour réfléchir à sa stratégie. C'est pas en fabriquant, on est toujours à la traîne d'une commande et tout. Il faut prendre de l'altitude. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une entreprise d'une vingtaine de personnes, donc je peux prendre du temps pour réfléchir à la stratégie.
Mais ils ont l'impression de se mettre en danger s'ils s'ouvrent.
Oui. Et c'est ça qu'il faut leur... Qu'on a vraiment ça à faire, c'est ouvrez la fenêtre, regardez vers le large. Vous savez, on dit toujours que l'hominidé s'est humanisé, c'est parce qu'il s'est redressé et qu'il a regardé au loin. Vous savez, je ne sais plus qui a dit un jour, l'homme est le seul animal qui se couche sur le dos, c'est donc le seul à pouvoir regarder les étoiles avant de s'endormir. Eh bien, je crois qu'il faut que nos artisans d'art, ils redressent la tête et ils voient que le monde, d'abord, n'est pas un monde d'hostilité, mais qu'évidemment, les gens ne parlent pas leur langue, que pour vendre un produit, il faut qu'il y ait une belle photo. Et puis, ce n'est pas parce que leur père faisait comme ça qu'il faut qu'ils continuent. Il y a peut-être des formes à changer. Le client n'a pas forcément tort. Enfin, je veux dire, il y a...
Petite remise en question souhaitée.
Oui.
Voilà, d'accord. Message compris. Écoutez, à bientôt et rendez-vous le 1er, le 2, le 3 avril avec le public.
Alors je précise que ce ne sera pas le 1er avril tous les ans, parce que je vous avoue que les journées nationales des métiers d'art, un 1er avril, ça c'était quand même un peu blague. Mais moi je trouvais ça plutôt sympa. Mais l'année prochaine, ce ne sera pas le 1er avril. Ça ne tombe pas le 1er avril, le premier week-end d'avril.
D'accord, voilà. Entendu. Mais ça sera donc le rendez-vous, c'est le premier week-end d'avril.
Tous les ans.
Merci. Merci à vous.